Bien, alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Louise Jor, donc pour parler, j'espère que je prononce bien
votre
nom,
ça va. Bonjour.
Donc on est ravis de parler avec vous au sujet donc de Canopée. Alors on en avait discuté un petit peu par écrit il y a quelques mois de ça au moment de la sortie. Et on profite des Utopiales donc pour rediscuter un peu autour de votre ouvrage, éventuellement de vos projets futurs. Mais avant d'en arriver là, on va déjà commencer par... est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la bande dessinée?
Alors moi, je suis dans la bande dessinée depuis que je suis née. Mes deux parents ont fait des études de bande dessinée, même si au final, aucun des deux n'a fait de BD par la suite. Mon père a été libraire spécialisé en bande dessinée pendant 15 ans, donc moi j'ai toujours baigné dedans, j'ai toujours eu accès à plein de livres, je dévorais tout. Et par la suite, ma mère a continué de dessiner, donc j'ai grandi là-dedans et j'ai vraiment gardé un amour de la bande dessinée. Et à un moment, j'ai voulu en faire et je me suis lancée. Et mes parents m'ont pas dit « mais tu es folle », donc ils m'ont laissé faire. Et donc je me suis inscrite moi aussi en section bande dessinée à l'école de Saint-Luc à Bruxelles. Mmh. J'ai passé 3 super années, j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein d'autres influences que je soupçonnais pas, alors que je connaissais déjà bien la bande dessinée. Et en sortant de l'école, pendant 2-3 ans, j'ai fait des histoires, j'ai dessiné, j'ai proposé plein d'histoires à différents éditeurs, sans succès. Mais j'ai continué, je me suis pas laissé démonter. Et au final, Canopée a intéressé les éditions Delcourt et j'étais très contente que ce soit cette histoire-là qui soit publiée en premier. Parce que je pense aussi que j'avais un vrai sujet à défendre dans Canopée et que c'est ça qui a fait que j'ai enfin pu accéder à une publication en fait.
Et donc avant d'en venir un peu plus précisément à Canopée, est-ce que le fait justement d'avoir publié un album enfin et de l'avoir terminé, etc., est-ce que ça change quelque chose après dans votre façon d'appréhender votre travail et...
Oui, parce que à partir du moment où le livre est sorti, qu'on est reconnu en tant qu'auteur de bande dessinée, ça devient vraiment un travail. Et c'est vrai que j'ai beau avoir travaillé pendant presque 2 ans pour faire cet album, c'est seulement à partir du moment où il y a une reconnaissance qui sort, même si c'est pas forcément une reconnaissance énorme, mais qu'on est étiqueté auteur de bande dessinée, qu'on se sent vraiment un métier en fait, même si c'est pas forcément facile d'en vivre, parce que métier normalement ça veut dire qu'on gagne sa vie avec. C'est pas forcément facile d'en vivre, mais je le sens vraiment comme un métier, comme un travail, avec les points positifs et négatifs que ça représente, c'est-à-dire que je prends toujours énormément de plaisir à dessiner, à créer des histoires, c'est presque vital pour moi, mais c'est un travail, et donc il faut avoir gardé la tête froide et ne pas rester que dans l'émotionnel de « je crée des histoires, c'est génial, je veux que tout le monde les lise ». Il y a tout le côté travail, budget, argent, régularité qu'il faut bien prendre en compte, et c'est là qu'on sent vraiment un métier. Mais c'est génial, moi je suis très contente de faire ce métier.
Mais justement par rapport à la façon dont l'histoire a mûri finalement, le fait d'arriver à en faire un album, comment est-ce que cette histoire, enfin Canopée en particulier, a mûri au départ? L'idée est venue comment? Donc c'est un projet qui a pris quand même un certain temps.
Oui, c'est un projet qui date de fin 2011. J'avais envie de parler d'écologie, et en fait, malheureusement, c'est la catastrophe de Fukushima qui m'a donné l'angle d'attaque pour commencer cette histoire, en prenant l'angle du nucléaire et des catastrophes qu'il y a autour. Et donc, fin 2011, j'ai commencé à écrire l'histoire de Canopée en prenant un personnage, donc, qui est celui de Canopée au final, que j'avais déjà créé pour une autre histoire et qui correspondait très bien pour celle-ci. Et autour de ça, donc, il y avait la thématique donc, de l'écologie, j'avais envie de faire une histoire d'amour aussi, j'avais envie que ce soit un peu anticipation fantastique, donc science-fiction aussi. Et j'ai mixé un peu tout ça, et pendant 5-6 mois, j'ai vraiment construit mon projet pour le présenter aux éditeurs. Ensuite, donc, les éditions Delcourt ont accroché. Et là, il y a eu un deuxième travail de relecture, de mise en page, de le mettre au format où il est au final. Parce que raconter une histoire, ça dépend du format qu'on a aussi. Et ici, c'est un format plus petit que le classique. Mmh. Et c'était donc une pagination différente. Et j'ai beaucoup aimé cette pagination. Elle permettait beaucoup de choses. C'était très libre. Et c'était donc très très agréable.
Oui, parce que ça reste une pagination un petit peu hybride en fait. Pas, oui. On n'est pas dans le grand format, on n'est pas dans le
manga
format
non
manga
plus.
Non plus.
Ouais.
On est dans un entre-deux et finalement cet entre-deux vous a convenu.
Oui, je trouve. Bah, en fait, c'est une histoire correspond souvent à un format et je trouve que pour Canopée, ce format-là était vraiment. Est toujours parfait quoi. C'était pile le bon format et je suis très contente de l'objet final.
Et justement au niveau du dessin en lui-même, le fait d'avoir ce format, est-ce que ça a une influence sur le déroulé de l'histoire, est-ce que peut-être que sur un plus grand format, on aurait eu des planches un peu différentes.
Hein, oui, tout à fait. Mais en fait, le fait que ce soit sur un plus petit format demande de mettre moins de cases par planche, par exemple, et demande aussi une fluidité différente. C'est vrai que dans un format classique avec peu de planches, genre 50 planches, il faut que ce soit vraiment très efficace. Et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé dans Canopée, c'est de pouvoir prendre le temps à certains moments de laisser la forêt exister en elle-même, d'avoir des moments de silence. C'est possible de le faire aussi en plus court, mais c'est plus compliqué et moins contemplatif du coup.
Effectivement, là on a une histoire complète. Et c'est vrai qu'il y a des moments de pause, ça permet peut-être de mieux rythmer le. Je pensais, c'est un format finalement qui se rapproche un peu au nombre de pages des mangas par exemple.
Oui, tout à fait.
Où donc ça va être très dynamique, il va se passer plein de choses. Mais la différence avec un manga, c'est que le manga ça va être des séries qui vont s'étaler sur X volumes, alors que là on a quand même une. C'est dense, c'est un peu comme la forêt, c'est très dense, c'est touffu, mais voilà, il y a une richesse.
La différence avec le manga aussi, c'est qu'ici c'est en couleur, et c'est vrai que le fait de faire de la couleur permet aussi de plus s'arrêter sur les cases, enfin je trouve. Et c'est vrai que la couleur est importante dans l'album pour moi, pour autant raconter les histoires et faire vivre chacun des personnages, que chacun des personnages, que ce soit personnages humains, animaux ou la forêt, ait son temps d'existence dans l'album en fait. À part équilibré, on va dire.
Ça me fait penser justement au niveau du décor, etc. Moi, ça m'a un peu évoqué Miyazaki. Et je pensais notamment au seul manga en tant que tel qu'il ait eu le temps de dessiner, etc. Donc c'est Naoshika.
Oui.
Et finalement, je trouve que ça se rapproche un peu au niveau que ce soit du format, de la façon dont.
Oui. Moi, j'ai découvert. Moi, je prononce Nausicaa, mais c'est mieux. À mon avis, c'est vous. Non,
c'est
je ne sais pas quelle est la bonne prononciation, mais je ne vais pas savoir le prononcer autrement. Donc, moi, j'ai découvert Nausicaa par le manga, en fait, parce qu'il a fait un film aussi, que j'ai moins aimé que le manga.
Il est très réduit.
Voilà, c'est vrai que Canopée se rapproche du format de Nausicaa qui m'avait vraiment marqué beaucoup plus. Enfin, Miyazaki, si je devais citer un maître, ce serait lui. Donc c'est vraiment une grosse influence, une grosse référence. Et c'est vrai que quand j'ai fait Canopée, j'ai visé en me disant, je vais essayer de faire mon mieux et je vais essayer de me rapprocher de ce que pourrait faire Miyazaki, tout en sachant que je n'y arriverai pas parce que voilà, on peut pas être à la même hauteur que ce qu'il fait. Mais j'avais envie de viser vers des histoires qui étaient pleines d'humanité, qui laissaient une place à la nature, qui laissaient une place aux sentiments aussi. Mm-hmm. Et j'avais envie de mixer tout ça pour m'approcher de son rythme de narration, même si c'est que ce soit en manga ou en film d'animation.
Et d'ailleurs, en ce qui le concerne, quel est le film qui vous a le plus marqué dans ce qu'il a fait
C'est difficile, j'ai pas envie de. Enfin, c'est dur de devoir choisir, mais c'est vrai qu'entre entre Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke et Le voyage de Chihiro, c'est dur. Et si je regarde ces autres films, je vais encore trouver des choses incroyables dans chacun d'eux. Donc, je citerai ces trois-là, mais je les ai tous vus et il y avait vraiment quelque chose à prendre dans chacun.
Donc, pour en revenir un peu plus précisément à Canopée, puisque.
On va parler de Miyazaki pendant des heures, mais. Voilà.
Mais on est aussi là pour parler de votre album. Et alors Canopée, il y a la nature, la verdure, etc. Mais vous n'avez pas pour autant délaissé les personnages, qui sont aussi assez fouillés. Enfin, on a deux. Il y a un couple, finalement, qui se forme. Et donc, dans ce couple, on a la jeune femme proche de la nature et l'homme qui vient un peu de la civilisation. Et est-ce que c'était pas trop dur à équilibrer justement, mettre en scène, parce qu'ils viennent de deux mondes complètement différents.
Oui, mais c'est un exercice intéressant où j'ai eu un peu de mal au début parce qu'il faut justement qu'ils soient extrêmement différents. Et quand, enfin moi je fais tout, je fais le scénario, le dessin, la couleur, Et c'est difficile d'extraire de soi deux caractères aussi opposés, en fait. Et il fallait pas l'oublier, parce que c'est ça qui est le travail de scénario, c'est de bien différencier les personnages. Et donc, c'était pas évident, mais c'était extrêmement intéressant, parce qu'il fallait se mettre dans la peau de chacun d'eux et d'essayer de comprendre leur fonctionnement, leur logique, et de laisser à chacun qu'il n'y ait pas un qui soit plus fouillé que l'autre, qui soit assez équilibré.
Et donc, on va s'écarter un petit peu des personnages, en venir un peu aux animaux, etc. Alors, pour les mutations, etc., de quoi vous vous êtes inspiré pour les représenter, finalement, parce que vous avez...
De la réalité.
voilà. Elles ont un côté assez, assez réaliste, je dirais, justement, et elles font un peu peur, d'ailleurs.
J'ai pris quelques libertés, mais je me suis renseigné sur qu'est-ce que la radioactivité... pouvait créer chez des espèces animales, végétales et humaines. Je sépare toujours animal et humain, même si c'est pareil, mais je voulais voir quel était l'effet sur la nature, par exemple, ce qui s'est passé à Tchernobyl. Et donc je me suis documentée, c'était pas la partie la plus chouette, mais je me suis beaucoup documentée, et j'ai essayé que même si ça fasse peut-être un petit peu peur, parce que c'est vrai que ce sont des organismes qui sont malades, que ce soit, j'avais pas envie de donner un côté monstrueux, j'avais envie que ce soit un élément physique avec lequel la faune et la flore vivent, comme si c'était comme si c'était naturel, parce qu'eux ils ont grandi avec, ils ont vécu avec, donc ils ont toujours connu ça, et je voulais que ce soit un élément en plus parmi d'autres qui nous apparaît étrange, parce qu'on voit la réalité de tous les jours, mais qui pour cet environnement, cette forêt de 2137, soit normal.
D'ailleurs, enfin, je crois que autour de Tchernobyl, etc., enfin, la nature a repris un peu ses droits.
Oui, et c'est fascinant, en fait. J'ai vu un documentaire sur Tchernobyl en particulier qui m'a marqué, de voir en fait que c'est vrai, c'est une catastrophe. Quand il y a une catastrophe nucléaire, c'est vraiment une catastrophe écologique. Mais on voit que la nature le prend comme une catastrophe naturelle. Peu importe laquelle, et continue de vivre, ce que l'homme n'arrive pas à faire, parce qu'on voit les effets immédiats aussi sur l'homme, et la nature continue et fait comme s'il ne s'était rien passé. Et quand on voit le documentaire à Tchernobyl, on voit en fait que la menace est totalement invisible. On voit des biches qui errent dans une nature qui est très très belle. On ne se douterait pas du tout qu'il y a la radioactivité partout. Et j'avais envie de retransmettre ça dans Canopé aussi, le fait que ce soit une menace invisible, mais qui soit réelle.
Et donc, au niveau du nucléaire et de ce qui s'est passé notamment à Fukushima, donc aussi, puisque vous en êtes un peu inspiré aussi pour Canopé, qu'est-ce que vous pensez de la situation là-bas, vos sentiments vis-à-vis du nucléaire, notamment, par exemple, la façon dont ça a été...
Moi, mon sentiment vis-à-vis du nucléaire, à force... Enfin, j'ai pas fait des recherches extrêmement poussées, mais les recherches que j'ai faites me font dire que c'est une technologie qu'on utilise mal et qu'on utilise surtout... qu'on utilise mal et qu'on continue d'utiliser malgré notre ignorance à son sujet, en fait. Et donc, pour moi, il faudrait ne plus l'utiliser du tout, parce que l'homme a cette capacité, justement, ici on est aux utopiales et le thème c'est les intelligences, et l'homme a une capacité d'intelligence énorme qui fait que quand il est mis devant un obstacle, il trouve le moyen de passer au-dessus. Pour moi, si on arrêtait toutes les centrales nucléaires, même ça ne réglerait pas le problème, parce qu'il y aurait toujours des déchets qui existeraient, mais arrêter de l'utiliser et d'être en permanence sur une bombe qui va exploser aux quatre coins de la planète, nous permettrait de trouver d'autres solutions qui seraient beaucoup plus écologiques, vivables, et qui compenseraient tout ce qu'on a perdu, entre guillemets, en arrêtant le nucléaire. Je pense qu'on peut très bien vivre sans, mais qu'on nous fait croire, parce que ça coûte extrêmement cher de démanteler des centrales, d'arrêter, de remplacer. En fait, le changement fait peur et coûte cher aux États en place, mais donc on nous fait croire qu'on ne pourrait pas vivre sans. Mais c'est faux, on a vécu sans et on pourra vivre sans, c'est juste qu'il faut avoir le courage de passer à autre chose et d'essayer d'autres choses. Et plutôt que de rester sur une technologie qu'on utilise mal et qu'on ne connaît pas bien. Voilà, c'est mon avis sur le nucléaire.
Merci.
Et par rapport au Japon, qui est un pays que j'aime beaucoup, j'ai déjà été deux fois et je vais y retourner l'année prochaine, c'est assez catastrophique, parce que je pense qu'ils cachent enfin, il ne donne pas tous les détails à la population de ce qui se passe et des vraies catastrophes qui sont passées, parce qu'il y a des tonnes d'eau polluée par la radioactivité qui s'écoule dans la mer par jour. Donc ça pollue pas seulement le Japon, ça pollue les océans, ça pollue tout. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte avec le nucléaire, c'est que le nucléaire va jamais respecter les frontières. À partir du moment où il y a une catastrophe sur la planète, c'est toute la planète qui prend un coup. Donc il ne faut pas arrêter ses centrales et aller acheter le nucléaire du pays voisin, ça ne sert à rien, il faut arrêter tout pour que ça fonctionne vraiment. Voilà. c'est un sujet un peu...
c'est très intéressant. Voilà. Et la thématique écologique vous intéresse particulièrement. Et est-ce que vous envisagez de la réutiliser dans des projets futurs ou ça restera toujours un peu en...
Ça reste toujours en fond parce que, en fait, l'écologie, pour moi, c'est pas quelque chose de... C'est pas une science à part. L'écologie, c'est quelque chose avec lequel on vit tous les jours. C'est prendre conscience de notre place dans notre environnement, que ce soit la ville, la campagne, notre place dans l'environnement. Et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut interagir avec cet environnement sans le détruire et sans surconsommer, en fait. Voilà. Et oui, ça restera toujours en fond dans mes histoires parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et auquel je réfléchis tous les jours dans mon quotidien. Je ne sais pas si ce sera aussi transparent que dans Canopée pour les prochains albums, le fait que ce soit vraiment le thème central, mais ça restera toujours en fond. Voilà.
Très bien. Alors, au niveau de vos projets, justement, Canopée est sorti il y a quelques temps déjà maintenant. Est-ce que vous avez des projets en cours? Qu'est-ce que vous prévoyez de...
Alors, j'ai des projets en cours, enfin, surtout un projet en cours, toujours chez Delcourt. Cette fois-ci, je vais essayer le format classique. Mm-hmm. Et ce serait une petite série, pour l'instant, de deux albums qui se lisent chacun séparément. Ce serait une histoire d'aventure à taille minuscule, c'est-à-dire avec des peuples de petits hommes qui vivent au contact des insectes. Voilà. Et beaucoup de nature encore, cette fois-ci de la nature de chez nous, parce que autant en Canopée j'avais envie de montrer la beauté de la nature tropicale, parce que c'est souvent celle qui fait plus rêver, on va dire, mais montrer que la nature de chez nous est très très belle aussi, ça me semble important.
Très bien, ben merci beaucoup. D'avoir répondu à ces quelques questions. Et juste pour terminer, est-ce que vous pourriez. Est-ce que vous avez quelques albums de BD, par exemple, est-ce qu'il y a quelques albums de BD que vous voudriez voir vos lecteurs lire, en fait?
Oui, il y en a beaucoup. Moi, c'est ce que j'aime bien, je vais donner les albums après, hein, mais ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est qu'on peut toujours apprendre plein de choses sous couvert de divertissement et qu'il y a une richesse incroyable dedans qui vaut la peine d'être explorée. Moi, je lis énormément de BD, donc c'est très difficile de faire un choix. Mais deux séries que je recommande tout le temps parce que je les trouve vraiment... trois séries. Allez, on va dire trois séries.
Je vais me limiter après.
Trois séries. Alors, la première, c'est une qui m'a inspirée pour Canopée, surtout graphiquement, même si l'histoire est très très bien aussi, c'est la série Alim le Tanneur, aux éditions Delcourt aussi, c'est en quatre volumes. Le dessin est à tomber par terre, l'histoire est super bien. C'est en quatre volumes, c'est un père et sa fille qui sont de basse caste, comme un peu en Inde, qui découvrent un secret au niveau de la religion et qui sont obligés de fuir pour cacher ce secret. C'est vraiment génial. La deuxième série que je recommande, c'est les extraordinaires aventures de Jules, d'Émile Bravo, aux éditions d'Argo, je crois. C'est un peu scientifique, c'est un peu fantastique, c'est drôle, c'est vraiment extrêmement drôle. On dit que c'est pour les enfants, mais c'est pour tout le monde. Voilà. Enfin, pour moi, les séries pour enfants, c'est toujours pour tout le monde, parce qu'on peut apprendre tellement de choses. Et alors, la dernière série, c'est la série Bone, de Jeff Smith, que moi, je lis en noir et blanc, même s'il y a une version couleur qui sort chez Delcourt. C'est aussi fantastique. Pour moi, Bone, c'est un peu la série parfaite. C'est en 12 volumes, c'est en 11 ou 12, je ne sais plus. C'est la série parfaite. C'est la série que je suis triste pour l'auteur qui puisse pas la lire. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis ces conseils de lecture. Et au plaisir de vous retrouver dans vos prochains projets.
Avec grand plaisir.
Merci.